Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Même nos patrons, ils disaient on est une famille. Alors bon, finalement, je trouve que c'était pas fou d'être une famille à ce moment-là, mais on disait qu'on était une famille. On fêtait tous nos anniversaires ensemble. On faisait des soirées, on regroupait tous les anniversaires du mois. Et on s'offrait tous des cadeaux, tout le monde participait à une cagnotte, on s'offrait des cadeaux, et les patrons aussi nous offraient des cadeaux. Donc c'est un peu le rêve, ouais.
C'est l'histoire d'une jeune fille brillante, qui a dû tisser très très jeune un rapport à ses finances personnelles. C'est aussi une histoire de start-up inspirante de la French Tech qui coche toutes les cases et tous les clichés. Et enfin, c'est l'histoire d'un post LinkedIn qui a fait réagir des milliers de gens. Mais quand j'ai demandé à Mégane ce qu'elle pensait de sa boîte et de ses employeurs, elle m'a répondu du tac au tac « Je veux qu'il meure ». Alors, nous avons convenu pour les besoins de l'entretien que nous appellerions son entreprise « Schtroumpf ». C'est pas très sympa pour les Schtroumpfs, mais je voulais qu'elle se sente libre de s'exprimer sans contrainte, malgré le fait que, à Thune Podcast, on n'a pas encore de budget avocat, si d'aventure on voulait nous attaquer en diffamation. Voilà, cela précisé, je vous souhaite bien sûr une excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Mégane. Mégane, tu as 27 ans. Il t'est arrivé une sacrée histoire. Mais avant d'en parler, je voudrais savoir, Mégane, t'as grandi où ? Et ils faisaient quoi, tes parents ?
J'ai grandi à Nice. Ma mère, elle a été assistante maternelle. Maintenant, elle est naturopathe. Et mon père, il a fait 30 ans de cuisine. Et maintenant, il est artisan, auto-entrepreneur. Il fait des chantiers, des trucs comme ça. J'ai deux frères. Ils sont tous plus petits que moi, deux frères et une sœur. Voilà, ils font des études.
Et vous parliez d'argent à la maison ?
Oui, on a toujours parlé d'argent. Ça a été même un peu le nerf de la guerre, parce que mes parents qui ont fait quatre enfants, ben, ils ont toujours dit que mon père, il gagne très très bien sa vie. Mais avec quatre enfants, ben, il a l'impression de pas du tout gagner sa vie. Quoi. Pour aller en vacances et tout, c'était compliqué. Ils se disaient toujours, c'est fou parce que j'ai rentré plein d'argent ce mois-ci, mais on a tellement de charges, on a tellement d'enfants que si on n'avait pas d'enfants, on serait riche.
Du coup, t'en étais consciente très très jeune que les choses avaient un prix, qu'il fallait peut-être pas trop demander à tes parents pour t'acheter des trucs ?
Oui. J'ai toujours été très consciente de ça. Par exemple, à mes 18 ans, je suis partie chez mes parents parce que je voulais beaucoup d'indépendance. J'ai toujours été comme ça. Je suis partie vivre à Paris pour mes études pendant 2 ans et j'ai essayé de leur demander rien du tout, quoi. Donc, je travaillais la nuit, je travaillais le week-end. J'étais avec quelqu'un dans un appartement là-bas que j'essayais de motiver aussi pour travailler. Et je faisais que travailler. Je me levais à 6h du matin des fois pour travailler avant d'aller en cours à 8h. Et...
Tu faisais quoi comme boulot ?
J'ai fait du soutien scolaire à des enfants. Et après, j'ai fait hôtesse d'accueil pour des salons, le salon de l'automobile, les salons comme ça qu'il y avait à Paris où c'était bien rémunéré. Et après, j'ai fait des babysitting, des trucs de base, quoi.
Et t'es arrivé à payer le loyer ?
J'ai réussi à payer le loyer, ouais.
Avec ton copain qui travaillait pas trop ?
Ouais, non, il foutait rien.
Et t'as fait des études en plus ?
Bah, j'ai fait une licence de psychologie et après ça, j'ai fait un an de césure parce que je voulais rentrer à Nice parce que Paris me convenait pas du tout. Donc je suis rentrée à Nice, j'ai fait un an de serveuse pour faire des sous. Et ensuite, j'ai repris un master en ergonomie cognitive des technologies numériques. Ça fait peur, mais ça fait pas si peur en vrai. En gros, c'est faire du design d'interface pour adapter les technologies à l'humain et pas que ce soit l'humain qui s'adapte aux technologies.
T'es du genre économe ou t'es du genre à tout claquer ?
Ouais, je claque tout.
Ah ouais ?
Ouais, beaucoup. Enfin, je suis économe dans le sens où si je sais, par exemple, que je vais avoir des frais à ce moment-là, je vais mettre pile poil ce qu'il faut pour payer les frais. Par contre, je suis du genre à profiter, dépenser tout, faire plaisir à mes amis parce que j'ai toujours eu des bons salaires ou des trucs comme ça là où j'ai travaillé, même en tant que serveuse. J'arrivais avec les pourboires à faire 3 500, 4 000 par mois. Donc j'avais environ 100 à 150 euros de pourboire par jour. Je n'ai rien économisé pendant tout ce temps-là parce que j'avais mes amis qui avaient moins de sous que moi. Et je payais tout le monde parce que j'avais envie de faire des trucs et j'avais envie de les faire avec eux. Donc
tu claques.
Donc, je claque tout. Je claque pas dans les fringues, dans un truc comme ça, tout, mais dans les activités ou dans les restos ou. Ouais, je claque pour partager des moments, quoi.
T'invites facilement?
Ouais, tout le temps.
Ils étaient fiers que tu sois indépendante financièrement, tes parents?
Ouais, je pense.
Tu l'as été super tôt, quoi.
Ouais. Bah après, je t'avoue quand même que pendant les 2 ans, il y a eu une fois ou deux, mon père m'a aidée. Mais en règle générale, oui, j'ai essayé d'être indépendante au maximum tout le temps. Même des fois, je leur disais pas que je mangeais pas pendant 4 jours, parce que sinon, je me suis dit, les pauvres. Puis en plus, je me disais, il y a mes 3 frères et sœurs à la maison, qui sont plus petits que moi. Donc j'avais pas envie de prendre de l'argent qui est censé être pour le foyer à eux. Donc ils m'ont quand même aidée, hein, quand j'étais vraiment au ras des pâquerettes, mais...
Ah oui, t'as eu des moments de galère quand même.
Oui, quand même, bah, c'était
malgré
pas...
les bons plans, malgré les boulots.
Oui, parce que Paris, c'est quand même cher, quoi. Et puis le gars avec qui j'étais était vraiment naze et ne payait rien, donc oui, c'est aussi pour ça.
Et tu files à tes frères et sœurs ou...
Ben, je leur donne pas de sous comme ça, mais quand il y a des anniversaires ou quoi, j'essaie de faire les plus beaux cadeaux. Quand on peut faire des journées ensemble, je leur paye tout, ouais.
Ils sont comme toi ?
Pas du tout. Pas du tout.
Ils en ont rien à faire de l'argent ?
Ouais, ouais. Bah, par exemple, mon frère qui a 25 ans, lui, il comprend pas ce que c'est l'argent, j'ai l'impression. Il vit chez mes parents, en plus, et il dépense dans tout et n'importe quoi, quoi. Il est fan de Disney, par exemple, et il va s'acheter des tapis Disney, des trucs... Enfin, je pense qu'il a pas la valeur, parce qu'il est jamais parti de chez mes parents, et du coup, il a pas capté... Je pense qu'il a pas capté. Et là où mes parents ont eu des plus gros problèmes financiers, c'est quand moi, j'étais plus petite... Donc, je devais avoir 10 ans, des trucs comme ça, ou même plus jeune. Du coup, je me rendais un petit peu compte, je pense, et puis ils m'en ont beaucoup parlé. Alors que mon frère était plus jeune, donc il ne l'a pas vu, je pense. Et ça ne l'a jamais intéressé, donc il n'en a jamais vraiment parlé avec eux. Donc, je pense qu'il ne sait même pas à quel point... Enfin, mon père, je ne sais pas si c'est une anecdote qu'on peut vraiment raconter, mais je sais que quand j'étais petite, il allait vendre des fois des sous-vêtements aux prostituées sur la prom pour faire des sous, pour manger, pour donner à manger, tu vois, tellement il était dans la merde. Bon, il me l'a raconté. Je ne sais même pas si mon frère est au courant, tu vois, mais parce que nous, on en a beaucoup parlé et que. Vu que moi j'ai toujours été, j'ai toujours voulu être indépendante très vite. J'ai toujours cherché les petits tips, les bons conseils, donc j'ai beaucoup parlé avec eux de tout ça, quoi. Je sais que moi, par exemple, les salaires que j'ai pu avoir après, je sais que ma mère, par exemple, elle a jamais gagné des salaires comme ça, enfin, ou même mes soldes de tout compte que j'ai pu avoir en fin de serveuse ou quoi. Ma mère me dit mais c'est énorme, tu te rends compte, enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Mais vu que j'ai toujours, moi, négocié mes salaires, ou même des clauses de contrat, on me disait, finalement, il faut aller faire ça aujourd'hui. C'est pas dans mon contrat, donc non. Enfin, j'ai toujours été très carré, quoi. J'aime pas me laisser marcher dessus.
Tu te mets à chercher, donc, un vrai boulot.
Ouais, c'est ça. En gros, j'ai fini mes études sur un stage de fin d'année pendant 6 mois. Et une fois que j'ai terminé, en gros, il me restait 1 mois de stage et il fallait vite que je trouve autre chose. Sinon, après, j'avais pas de sous, j'aurais rien, parce que j'aurais pas eu de salaire ni rien après le stage. Et en fait, j'ai envoyé que des candidatures spontanées dans toutes les startups de ma région, enfin, des alentours, pour essayer de trouver un job qui me plaisait, parce que j'avais pas du tout envie de répondre à des candidatures à la con où il y a 600 personnes qui répondent. Et du coup, je voulais un truc unique où je leur montrais qu'ils avaient besoin de moi, quoi. C'est comme ça que j'ai fait.
Donc, ta cible, c'est les startups. Ta fiche de poste ou ton intitulé de poste, c'est...
On dit UX/UI designer.
UX/UI designer. Ceux qui savent, sachent ce que c'est. Donc, c'est effectivement faciliter l'interface entre un produit et l'utilisation qu'en font les gens.
Exactement.
Et est-ce que tu trouves ?
Au début, c'est compliqué. Donc, la première fois, la startup que j'ai intégrée, au début, il m'avait proposé 24 000. J'ai dit, par contre, tu te fous un peu de moi, quoi, 24 000, c'est rien du tout. Et du coup, on a renégocié ensemble. Et donc, au final, j'ai signé le contrat à 28 000.
Oui, ça fait un peu plus de 2 000 balles par mois. Un loyer, par exemple. Ton loyer, à ce moment-là, il est de combien ?
À ce moment-là, j'étais en coloc. On avait 80 mètres carrés, on payait 1 400 balles. Mais on était trois, donc ça va, on payait 500 balles chacun. C'était bien pour être en coloc. Après, pour vivre toute seule et prendre un appartement vraiment... à des prix, toute seule, non, c'était pas possible. 2 000 euros, c'est trop peu, on va dire. J'ai déménagé, d'ailleurs... Quand j'ai eu ma prime, parce que j'avais négocié un salaire, un contrat qui faisait que mon salaire était évolutif tous les 6 mois. Et donc, du coup, normalement, je crois que ça faisait un truc du genre, c'était 28 000. Du coup, après 6 mois, après, c'était 30 000, 32 000, 35 000, jusqu'à cette année où c'était 42 000. Donc, en vrai, en 2 ans, j'étais déjà montée comme avec un prix d'un UX designer qui a, on va dire, 6 à 7 ans de background, alors moi, j'avais que 2 ans.
T'es une bonne négociatrice, non?
Ouais, peut-être, ouais. Bah, c'est surtout que, par exemple, quand ils m'ont proposé 24 000, je suis pas allée direct en disant, bah non, moi, je veux 28. J'ai dit, ok pour 24. J'ai travaillé un mois, mais j'ai pas signé le contrat. Et au bout d'un mois, ils m'ont dit, mais il faut signer le contrat. J'ai dit, bah voilà tout ce que j'ai fait en un mois. Est-ce que vous pensez que ça vaut 24 000 maintenant? Et du coup, j'ai dit, bah voilà, donc bah, moi, je veux 28. Ils m'ont dit, ok.
Donc, tu négocies quand même super bien dans cette boîte que nous allons appeler la boîte Schtroumpf, pauvre Schtroumpf. Tu es dans la start-up Schtroumpf.
Ouais.
Ça se passe bien, vous êtes combien?
Quand j'arrive, on est 6.
Bonne équipe?
Ouais, trop cool, que des jeunes, enfin entre 21 et 26 ans, 27 ans.
Et le projet est intéressant?
Le projet est super intéressant et super innovant. En gros, c'est une application mobile qui est destinée aux enfants pour leur faire réviser leur programme scolaire. En fait, en gros, ça bloque le téléphone des enfants selon ce que a choisi le parent pendant, par exemple, 15 questions de maths, et hop, dès qu'il a fait 15 questions, ça lui débloque le téléphone. Donc le projet donne envie, parce que c'est trop cool, en plus c'est éducatif, nous on aimait bien ça, et on est une bande de jeunes qui créons un truc qui n'existe pas, quoi. Donc c'est trop kiffant.
Et les patrons?
Et les patrons, ils sont super cool, ils nous font un peu rêver en disant que, en fonction du travail qu'on va faire, on va avoir, en fonction des ventes par exemple, on va avoir des primes, qu'on va faire des activités tous ensemble, il y a des journées paddle, il y a des trucs... C'est un peu la boîte à l'américaine, quoi. On est dans des grands canapés, il y a des bureaux, mais on fait comme on veut. On peut mettre de la musique si on veut mettre de la musique. C'est un peu une grande cour de récré, quoi.
Startup Nation.
Startup Nation.
Donc, c'est le rêve, là. T'as trouvé le boulot que tu veux. T'es en coloc, t'as pas trop de frais.
Ouais, c'est ça. Je suis bien payée. Je kiffe grave. J'ai pas vraiment d'horaire, parce que c'est pareil. On nous a dit que les horaires, c'était comme on voulait. Donc, on se tient plus ou moins aux heures des réunions et tout ça. Et par contre, si on veut arriver plus à 10 heures et finir plus tard, on peut...
Tu claques moins d'argent là en plus, puisque tu travailles, donc t'as peut-être moins de temps à passer à...
Non, c'est pas vrai.
Ah bon, pas du tout.
Pas du tout, parce que du coup, on est que des jeunes, alors du coup, le soir, on fait des after-work. Donc du coup, on dépense beaucoup. Et on sort beaucoup.
Donc tu claques tout, quoi?
Je claque tout. Je garde rien.
Le découvert?
Ben... Moi, pour moi, si j'ai un découvert autorisé de moins 400 euros et que je suis à zéro, il me reste encore 400 euros.
Tu t'intéresses au compte de la boîte?
On voit par exemple les ventes qu'on fait, on voit aussi que la première année, ils font une levée de fonds de 400 000 euros, un truc comme ça. Donc on se dit, yes, c'est trop cool, ça nous fait des fonds en plus, parce que ben il fallait embaucher beaucoup de monde, parce qu'à 6, on peut pas créer tout un produit, enfin c'est compliqué. Donc du coup, ça a mis un coup de boost, on va dire, à la start-up, qui a fait que d'un coup, on s'est retrouvé avec plein de monde dans la start-up. Moi, j'ai pu monter une équipe, donc j'ai fait du recrutement, je me suis retrouvée à gérer des personnes, à gérer des alternants, des choses comme ça. Et donc, du coup, même mon poste a augmenté. Enfin, tout a changé, quoi. L'argent aussi, du coup.
Ah ouais, ton salaire a augmenté?
Ouais, mon salaire aussi a augmenté, du coup, parce que j'ai changé de poste. Je suis devenue responsable d'une équipe.
T'as quel âge à ce moment-là?
Eh ben, du coup, c'était dans les 6 premiers mois. Hein. C'était au bout des 6 mois. Donc, j'avais 25 ans, ouais.
C'était il y a 2 ans?
Ouais, c'est ça.
Là, t'es au top. Et tu gagnes combien?
Et là, je gagne 2004, 2005, un truc comme ça.
Avec des avantages en plus, des journées paddle en tout cas.
Oui, c'est ça. On fait beaucoup de choses ensemble en fait. Même nos patrons, ils disaient, on est une famille. Alors bon, finalement, je trouve que c'était pas fou d'être une famille à ce moment-là, mais on disait qu'on était une famille. On fêtait tous nos anniversaires ensemble. On faisait des soirées, on regroupait tous les anniversaires du mois et on s'offrait tous des cadeaux. Tout le monde participait à une cagnotte, on s'offrait des cadeaux et les patrons aussi nous offraient des cadeaux. Mais des cadeaux de grande échelle, par exemple. Donc, il y avait certaines personnes qui ont eu genre des week-ends dans des spas 5 étoiles. Moi, je fais de la moto, j'ai eu pour aller faire un tour de circuit au Castellet, ça coûte super cher. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est un peu le rêve, ouais.
Toi, tu te dis à ce moment-là que tu vas sans doute rester dans cette boîte pendant un sacré moment, non?
En fait, moi, j'ai toujours voulu être indépendante dans tout, donc même dans le travail. Donc, avant même de rentrer dans cette boîte, je m'étais dit, je vais faire 5 ans dans des entreprises différentes. Et après, je me mettrai en freelance, à mon compte. Et même pendant l'entretien, le premier entretien, quand le patron m'avait demandé « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Combien de temps tu veux rester avec nous ?» J'ai dit « bah, 1 ou 2 ans, hein, après, moi, je veux être en freelance. » J'ai toujours été honnête. Mais c'est vrai que ça se passait tellement bien que je me disais peut-être qu'en fait, je vais pas faire 5 ans dans des boîtes différentes et peut-être je vais faire juste 5 ans ici, peut-être, à voir où ça nous mène. Et puis, étant donné que tout partait bien, qu'on avait des financements et tout ça, on avait un peu le rêve américain en se disant « on va s'expatrier, on va monter des boîtes partout, enfin, ça va être... » Genre comme Google quand ils ont sorti leur truc, quoi, tu vois.
Bon, alors il s'est pas passé exactement ça.
Ouais, non, pas du tout.
À quel moment ça dévisse?
Oh mon Dieu.
Ça dévisse pas d'un coup?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de trucs bizarres. En gros, on a eu par exemple l'arrivée d'un chef technique, en gros, on va dire responsable des développeurs, ça s'appelle un CTO dans le monde des startups. Et du coup, il a tout détruit et ils ont cassé toute l'application pour tout refaire. Et nous, on disait, mais c'est pas la bonne manière de faire, on va perdre du temps, on était tous d'accord pour se dire que c'était pas normal. Et ce gars-là a voulu imposer ses trucs et du coup, les patrons ont laissé tout faire parce que vu que les patrons n'avaient aucune compétence technique, ils avaient juste les compétences de marketing et de com, en fait. Donc déjà, ça, c'était un premier truc où d'un coup, tout a changé, en fait. Nous, on était tous presque en train de se battre contre cette personne pour essayer de faire comprendre que ce qu'on avait fait, c'était bien. Et sauf que les patrons ne nous écoutaient plus du tout. Mais vraiment, il y avait d'un coup une distance alors qu'on s'appelait tout le temps, on se tutoyait, on rigolait tous ensemble.
Juste un petit point, leur levée de fonds, tu savais d'où elle provenait ?
Alors,
je savais d'où venait l'argent de la boîte, qu'est-ce qui avait permis de créer tout cette structure.
Alors, je sais que eux de base, ils avaient investi. Ils nous avaient dit que d'eux-mêmes, ils avaient investi de l'argent. Mais ensuite, pendant la levée de fonds, c'est une levée de fonds, on dit, je sais plus si le nom c'est CroEquity ou Crowfunding, un truc comme ça. Mais en gros, c'est comme une levée de fonds participative, c'est sur une plateforme. Et en fait, ils présentent leur projet et les gens peuvent mettre à hauteur de ce qu'ils veulent pour participer. En fait, ça permet d'avoir plusieurs investisseurs regroupés en un seul. Donc du coup, entre les parts sont divisées. C'est-à-dire que par exemple, les patrons, là je vais dire des bêtises, mais par exemple, ils avaient 60 et les investisseurs auraient eu 40. Eh bien, ce n'est pas les 15 investisseurs qui avaient tous un petit bout. C'est en tout, ils avaient 40. Donc en globalité, ça voulait dire que l'entreprise appartenait qu'à deux personnes, les patrons et l'investisseur unique qui était divisé dans plein de gens.
Et les patrons, c'est des gens riches ?
Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas trop leurs moyens
quand
financiers.
Quand tu les rencontres,
comme ça, oui, c'est des gens qui sont peut-être pas riches, mais aisés, quoi. Ils ont un Porsche Cayenne, ils ont des bijoux. Enfin, elle avait des bijoux chers, ils ont des jolies chemises. Enfin, ils sont bien, quoi. Mais ils sont pas non plus. Enfin, ils ont pas l'air blindés non plus, quoi. Mais ouais. Ils sont bien. Ils présentent bien, en tout cas.
T'as pas l'impression qu'ils vont être dans la dèche dans la minute suivante, en tout cas ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Aucunement.
Donc, bon, il y a l'arrivée d'un CTO.
C'est ça.
Qui se passe pas très bien.
Qui se passe pas très bien, parce que du coup, tous les plans changent. Donc, même les axes sur lesquels on était en train de travailler depuis des mois, tout change. Et notre discussion avec les patrons commence à être bien différente qu'avant. Avant, ils nous faisaient confiance en tout. Là, maintenant, ils commencent à nous fliquer. Finalement, si t'arrives à 10h, ça va plus du tout. Finalement, il faut travailler plus. Et finalement, le samedi, on va te demander de travailler. Et le dimanche aussi. Et le soir, on va t'appeler. Et quand on te dit, hier, t'es venu à 10h, donc là, je peux t'appeler le soir à 21h. Il n'y a pas d'horaire, donc c'est aussi travailler le soir. D'un coup, il y a tout qui change, en fait, si tu veux.
Les heures sup sont payées ?
Bien sûr que non. Quelle question. Puisqu'on ne pointe pas. Pourquoi on aurait des heures sup ? On les compte pas, nos heures.
Et toi, tu viens le samedi, tu travailles plus tard ?
Le week-end, j'essayais quand même de leur dire d'aller se faire. Mais le soir, oui. Après, moi, je suis toujours quelqu'un qui travaille plus le soir. Donc le matin, je sais que je suis pas très productive. Mais c'est vrai que beaucoup de sollicitations, quoi, beaucoup de mails. Et puis si on répondait pas dans la demi-heure, ça commençait à être compliqué, quoi.
Et l'ambiance change ?
L'ambiance change. L'ambiance change vraiment. On se retrouve à être beaucoup plus fliqué, à avoir des réunions, plein de réunions pour essayer de suivre tout ce que chacun fait, à avoir des points toutes les semaines pour montrer à quel point on a pu être productif, ce qu'on a fait ou pas. En gros, faut vraiment rendre des comptes, quoi. Mais c'est même pas comme dans un job lambda où c'est normal de rendre des comptes. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême. On va te demander presque à chaque minute ce que tu fais. On va regarder si t'es en ligne sur le réseau qu'on utilise en interne.
Et est-ce que tu soupçonnes à ce moment-là qu'il pourrait y avoir des problèmes de fric dans la boîte ?
Non, alors parce que les patrons sont quand même toujours très à nous tirer vers le haut. En fait, eux, ils sont pas souvent là, même presque jamais. Ils sont souvent en déplacement pour aller vendre le projet. Et quand ils arrivent, au bout de 2 semaines, en 2 jours, ils nous en font plein la gueule. Parce que, en fait, pour eux, c'était pas allé assez vite. Parce que eux, pendant 2 semaines, ils ont fait le tour du monde pour aller vendre le truc, mais que nous, en attendant, on n'a pas beaucoup avancé. Sauf qu'il y a des process à mettre en place dans la technique qu'ils peuvent pas comprendre, puisqu'ils sont pas dans ce milieu-là, à la base. Et quand on leur explique, oui, c'est normal que là, pendant 2 semaines, ça n'a pas changé. Mais quand on va faire la mise à jour, en une journée, t'auras l'impression que le monde a changé, mais ça, ils le comprennent pas. Donc, ils reviennent, tout énervés, et c'est vraiment une communication qui devient difficile, quoi. Mais financièrement, pour eux, ils disent « Oui, on a réussi à vendre ça là-bas, c'est trop bien, bientôt on va ouvrir des bureaux à Washington. » Là, j'exagère pas, c'est vraiment des phrases qu'ils nous ont dit. Ils disaient tout le temps « On va aller décrocher les étoiles, c'est bientôt, là, vous inquiétez pas. » Ils sont super enthousiastes, quoi.
Et les problèmes arrivent vraiment financièrement quand ?
En fait, on les voit pas venir. On nous dit rien, du tout. C'est-à-dire que tout est OK, tout se passe bien. Et juste, on voit des petits trucs. style, il y a une nouvelle personne qui arrive et puis ils lui fournissent pas d'ordi. Ils disent, ouais, mais ça va arriver, c'est normal. Pourtant, j'ai commandé, hein, mais c'est bizarre, ça arrive pas. Donc, des trucs comme ça. Donc, on se dit, c'est un peu bizarre, mais on n'est pas non plus alerté plus que ça. Enfin, ça peut arriver, en vrai. On a toujours eu confiance en eux et on avait presque une confiance aveugle. Je dirais presque, mais si. Parce qu'on était vraiment aveugle. Et donc, ça, on l'a pas vu venir. En fait, c'est vraiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain, d'un coup, on reçoit un mail qui nous dit « Écoutez, il y a une audite dans la banque, c'est normal que vous n'ayez pas reçu vos salaires maintenant, ça va arriver dans 15 jours. » Et en fait, on attend, et on a à ce moment-là une levée de fonds en cours, et c'était une levée de fonds de 750 000 euros. Et en fait, en 3 mois, elle devait durer 3 ou 4 mois, je crois, et au bout des 3 mois, on n'était qu'à 50 000 sur la levée de fonds. Et donc nous, on voyait qu'il n'y avait pas de sous, mais... On se disait, on a quand même des ventes de l'application, donc ça doit être sûrement ça qui nous fait vivre, mais on n'avait vraiment pas d'idée. Et ils nous ont dit, bon, bah, ça va arriver, puis ça n'arrive pas. Et puis au bout d'un mois, ils nous disent, finalement, on est vraiment désolés, on a des problèmes de trésorerie, voilà, on ne voulait pas vous en parler parce qu'on pensait que la levée de fonds allait arriver pile au moment où on n'avait plus d'argent. Donc ça, vous ne l'auriez pas vu. Et ils nous disent, on est vraiment désolés, si jamais vous continuez à travailler, même si vous n'êtes pas payé, on vous offrira une prime du montant de votre salaire en plus pour vous avoir remercié d'avoir cru en nous et au projet parce que la levée de fonds va bientôt être close parce qu'on a appelé plein d'investisseurs. En gros, l'argent est sur la plateforme, c'est juste la plateforme qui l'a pas encore viré sur notre compte. Mais bon, tout ça, c'était pas vrai, quoi.
Tu t'inquiètes ?
Je m'inquiète, mais c'est trop bête, mais on était tellement matrixés, on y croyait tous. Donc, on était tous en mode, OK, on va travailler 2 fois plus. Comme ça, ça va motiver. On va mettre des trucs sur les réseaux pour que les investisseurs puissent voir que ben, on est une équipe soudée, que même si jamais on n'est pas payé un mois, ben, on s'en fout parce qu'on kiffe ce qu'on fait et qu'on est... C'est pas que l'argent qui compte, il faut aussi avoir la passion du travail et c'est ce qu'on avait. Donc, on s'inquiète un peu. Mais pour nous, le mois d'après, c'était réglé. On avait une prime et ça repartait comme en 40, quoi.
Donc, c'est un couple de patrons, hein ?
Oui.
Ces patrons qui disaient que... Vous êtes une famille.
Ouais.
Est-ce que c'est devenu une réalité un peu ? Est-ce que tu les as à un moment un peu considérés comme presque de ta famille ou est-ce que tu les considérais comme des proches ?
Oui, c'est ça. J'avais vraiment confiance en eux comme des proches, mais vraiment énormément. Parce que, par exemple, on a eu plein de soucis dans les équipes. On a eu des prises de tête parce qu'en même temps, on travaillait qu'entre jeunes et tout. Et sachant qu'on sortait tous ensemble, des fois, il y avait des clashs dans la boîte. Et du coup, eux, ils essayaient toujours de... Enfin, on pouvait aller leur discuter avec eux. Si on voulait pleurer dans le bureau, on pouvait pleurer dans le bureau. Enfin, c'était un peu l'assistante sociale aussi, quoi. Donc, si, on était très proches d'eux. On avait fait des Noëls ensemble. À chaque fois, ils offraient des trucs à nos proches pour Noël. Enfin, on était vraiment très proches. Jusqu'au moment où, du coup, il y avait tous ces problèmes d'argent. Et où, en fait, on nous a remis dans la gueule. Mais vous croyez qu'on est une famille ou quoi ? Enfin, c'est à vous de vous bouger le cul aussi, hein. Vous pensez que l'argent, il va tomber du ciel. Et là, d'un coup, on nous a tout remis dans la tronche, alors que...
Tu t'en souviens de ça ?
Ah oui, je m'en souviens très bien parce que ils nous ont fait une réunion pour nous annoncer que finalement, au bout d'un mois, l'argent n'allait pas arriver, mais que ça allait arriver le mois prochain, qu'il fallait pas s'inquiéter. Et pendant cette réunion, ils nous ont dit va peut-être falloir arrêter de sortir autant que vous le faites, hein, comme ça vous pourrez garder de l'argent. Une fois, j'ai pas pu me rendre à la réunion parce que j'avais plus d'essence dans ma moto pour y aller. Et j'ai envoyé un message en demandant s'ils pouvaient faire du télétravail. On m'a dit oui. Du coup, j'ai fait ma réunion en télétravail et j'ai un grand miroir chez moi. Devant lequel je faisais ma réunion, et elle m'a dit « Ah bah t'as qu'à vendre ton miroir, comme ça, ça te fera des sous pour ce mois-ci. » Mais devant tous les employés, quoi. Du coup, à ce moment-là, en plus, on était une vingtaine, donc je me suis retrouvée un peu dans cette humiliation publique.
T'as trouvé que c'était une humiliation ?
Bah ouais, parce qu'elle m'a vraiment dit ça. En plus, je lui ai dit « Bah mon miroir, ça tombe bien, je l'ai trouvé à la poubelle, donc voilà. » Et c'est pareil, je lui disais « Mais tu te rends pas compte, là, comment je vais payer mon loyer et tout ?» Et elle m'a répondu « Il faut au moins 3 mois pour se faire expulser avant de pas payer son loyer, donc tranquille, d'ici là, on sera payé, donc ne paye pas. »
Là, on commence à être dans les mois où t'es pas payé, donc.
Ouais. Ouais, ça, c'est... Et encore, c'est le début, ça. C'est vraiment... Mon dernier salaire, il était, en gros, pour le mois de janvier, donc que j'ai reçu début février.
Janvier 2023.
Janvier 2023. Dernier salaire, janvier 2023, que j'ai reçu le 6 février 2023. Après ça, plus un centime, depuis.
Donc, le premier mois, tu te dis, bon, bah, t'y crois toujours ?
J'y crois toujours, et je pense qu'on va avoir cette fameuse prime et tout, donc ça me motive. Deuxième mois... C'est pareil, ils nous disent que ça va arriver. En fait, le truc, c'est que toutes les semaines, elle nous envoie des vocaux en nous disant « Alors aujourd'hui, on était avec des investisseurs, c'est très bien, il ne reste plus que 15 jours à attendre, c'est bon, ils nous envoient l'argent. » Toutes les semaines, on avait de... Enfin, on nous donnait du grain à moudre, quoi. Donc, on était en mode bah, « C'est bon, ça continue. » Et c'est au bout de 3 mois qu'on a tous arrêté de travailler. On a quand même continué à travailler 3 mois sans rien avoir.
Il y a un service compta ?
La compta, elle est externalisée à une boîte. Il y avait une employée qui avait appelé pour demander où est-ce que ça en était. Et en fait, les patrons nous ont fait une réunion en disant quelqu'un a voulu nous trahir, quelqu'un n'a pas confiance en nous, ou alors peut-être qu'il y a des hackers là, qui ont voulu savoir des choses sur nous, c'est pas normal. Alors en fait, ils savaient très bien qui c'était, parce que l'entreprise avait donné le numéro. Mais ils ont voulu faire culpabiliser pour plus que jamais qu'on appelle les comptables. Du coup, on flippait tous, quoi. En fait, après, on était dans un climat de confiance, aveuglément, et d'un coup, on est tombé dans un climat où on avait peur d'eux, si tu veux.
Avant, quand vous étiez dans le climat de confiance, vous parliez d'argent entre vous? Vous saviez combien chacun était payé ou pas du tout?
Oui, on en a toujours parlé. Et puis, on parlait beaucoup aussi des évolutions qu'on allait avoir dans l'entreprise. Parce que vu qu'on était dans les premiers d'un tout nouveau projet, moi, je me disais, ok, là, je suis responsable. Mais du coup, dans 6 mois, j'aimerais bien être responsable de ça. Et dans 1 an, j'aimerais bien être directrice de ça. Et du coup, on essayait tous de se tirer vers le haut en disant, moi aussi, je veux ça. Et puis, pour quel salaire? Et ok, mais toi, si tu demandes ça, donc moi, il faudrait que je demande moins. Parce que non, dans la logique, je suis pas censée être là. Et on essayait tous de se calibrer.
Et les patrons, vous saviez combien ils gagnaient?
Ils nous disaient qu'ils y prenaient rien. Mais bon, ça, on ne s'en sait rien, quoi.
Au fur et à mesure que les semaines se passent et que vous n'êtes pas payé, toute l'équipe, là, la petite team, j'imagine que vous commencez à parler d'argent un peu différemment.
Bah oui. Bah déjà...
En mode souci.
Oui, déjà en mode souci. Déjà en mode on n'a plus du tout de... Déjà, on ne sort plus. Enfin, donc on ne se voit plus en dehors. Donc en fait, les seules fois où on se voit en dehors, c'est que pour parler de ça. En fait, maintenant... Notre monde, il change complètement. On fait plus rien en dehors du travail. Et les seules fois où on se voit, on fait que parler de ça. Donc, en fait, on est dans une spirale infernale où on est tout le temps en angoisse. Et même quand on essaye de se voir pour se dire, de toute façon, il n'y a que nous qui comprenons notre problème. C'est compliqué pour nos proches et tout de comprendre que d'un coup, on ne peut plus rien faire. Du coup, on se voit, sauf qu'on parle que de ça. Et on est tout le temps... on se mange le cerveau, quoi.
C'est complètement déprimant.
Ah oui, c'est clair, oui. Bah, en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des parents qui peuvent aider. Il y a des alternants aussi, donc déjà, c'est des gens qui, de base, sont pas beaucoup payés parce qu'ils sont alternants, donc ils n'ont pas forcément des économies pour survivre quand t'as plus de sous. Et qui, du coup, se retrouvent à devoir rendre leur appartement. Enfin, il y a quelqu'un qui est rentré qui habitait dans les Vosges et il est parti. Du coup, il a rendu son appartement et il a dit, je rentre chez moi. Enfin, je peux pas revivre ici. Il y avait quelqu'un qui avait un enfant qui, du coup, sans sous, d'un coup, il s'est retrouvé, c'était trop compliqué pour lui, donc du coup, il a fait une démission, il est parti, ou une rupture conventionnelle, je sais plus. Mais il est parti pour pouvoir vite toucher du chômage, parce qu'avec son enfant, il peut plus attendre, quoi. Enfin...
Toi, d'après ce que j'ai compris, t'es pas trop du genre à avoir des économies non plus?
En début 2023, j'avais les économies pour payer mes impôts, qui sont tombés maintenant. Donc du coup, maintenant, je galère. Mais du coup, j'avais des sous de côté, puisque je comptais payer mes impôts. Ça, j'avais prévu, tu vois.
T'es cigale, mais t'es pas folle, toi.
Non, ça va, j'ai un petit peu dessous du jot, quoi. Mais du coup. C'est parti très vite, quoi. C'était pas non plus. Enfin, j'allais pas payer énormément d'impôts, donc je crois que j'avais 2 000 euros de côté, un truc comme ça. Donc, du coup, j'essaye tant bien que mal de pas tout dépenser, mais j'ai des charges, quoi.
Tu fais plus rien déjà, de toute façon?
Je fais plus rien. Même manger, je fais plus, quoi. Enfin, je mange des noodles à 60 centimes.
Ah ouais?
Après, il y a plein de goûts différents, quoi. C'est sympa. Mais oui, je fais plus rien du tout.
T'es en couple à ce moment-là? T'es célibataire?
Non, je suis célibataire.
Donc t'as personne pour t'aider éventuellement? Il n'y a pas de copain qui pourrait te...
Non. Je vis toute seule, je paye tout toute seule, j'ai mes charges. Et puis j'ai, on va dire, augmenté mon rythme de vie avec mes derniers salaires et tout ça. Donc en fait, j'ai le rythme de vie de quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois. Donc j'ai des frais et des trucs que tout le monde a, quoi. Son appart, ses assurances.
T'as pris un nouvel appart?
Machin et tout, ouais.
T'es plus en coloc?
J'ai fait... En février, donc juste avant de plus être payé, un crédit pour une moto à hauteur de 10 000 euros. En gros, le premier mois où je vais payer mon crédit, j'étais déjà plus payé, mais ça, je le savais pas. Donc, j'avais presque environ 1 500 à 1 600 euros de charges
fixes.
Assurance, et j'ai pas mangé.
Loyer.
1 500 balles, ouais, de charges fixes et
remboursement de crédit.
Mais vu que j'étais à 3 000, j'étais bien. En vrai, c'est peut-être un peu bête d'avoir 50% de charges machin, mais je comptais rembourser mon crédit très vite. C'était les premiers mois où j'allais avoir 1 500 euros de charges fixes. Mais après, je me suis dit, dès que j'aurai des primes et tout ça, en un an et demi, je baisserai beaucoup mon échéancier. Sauf qu'au final, c'est jamais arrivé, quoi. Donc, je me retrouve avec 1 500 euros de charges fixes et j'ai zéro, j'ai rien. Et j'ai pas mangé avec ça. C'est vraiment les charges fixes hors course, hors boire un verre, hors s'acheter un habit.
Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 3 mois, ça craque?
Au bout de 3 mois, c'est difficile de continuer à travailler alors qu'on n'a rien. Et puis même le moral, j'arrive plus à travailler, quoi. En plus de ça, du coup, je suis toute seule chez moi. puisque je me rends plus sur place, j'ai demandé du télétravail complet puisque je peux plus payer ni des tickets de tram ni y aller avec mes propres moyens. Donc du coup, j'étais tellement mal psychologiquement. Des fois, j'allais voir mes parents, ils me donnaient un petit billet. Je me souviens d'une fois où j'avais 10 balles. Je suis allée à Intermarché pour m'acheter à manger et je me suis mis à pleurer dans les rayons parce que je pouvais rien acheter. Enfin, si j'allais acheter 2 trucs, je me disais je vais manger 2 jours, quoi. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais psychologiquement, c'est pas possible. J'étais au bout de ma vie. Enfin, du coup, j'ai arrêté de travailler aussi parce que c'était impossible. Enfin...
C'était quoi les effets psychologiques? Est-ce que t'as grossi, t'as minci? Est-ce que tu faisais des rêves?
Alors, j'ai minci beaucoup parce que j'étais bien plus en fer avant. J'ai minci beaucoup du fait de pas manger, je pense. Surtout, je faisais des paralysies du sommeil, des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Enfin, je dormais très peu et quand je dormais, je voyais des trucs bizarres. J'étais tout le temps stressée. Même mes proches, ils me disaient tout le temps qu'on ne pouvait plus avoir une discussion normale. Genre, je partais au quart de tour pour tout. Et je me sentais déprimée. Je pleurais pour rien, alors que j'ai jamais été quelqu'un qui pleure. Enfin, pas du tout même. Mais une pub, un truc de merde, je pleurais tout le temps, quoi. Émotionnellement, c'était trop compliqué.
C'était vraiment le manque financier? Ou c'était aussi peut-être le contre-coup de cette histoire de rêve qui s'échouait?
Oui, bah en fait au début je me disais juste que c'est que j'avais pas de thunes et que voilà. Mais en fait en discutant avec mes amis, parce que heureusement j'ai eu la chance d'être très entourée, heureusement mes amis. Et à force d'en discuter, on m'a dit mais enfin c'est une copine un jour qui m'a dit mais Megan tu te rends pas compte que toi t'étais le modèle dans toutes les amies qui s'est toujours débrouillée toute seule, qui a tout fait dans sa vie pour être indépendante rapidement, qui a tout fait pour se créer son univers, même je suis la copine célibataire qui fait plein de trucs et qui... Enfin, je suis jamais chez moi, mais c'est en mode... parce que je veux un peu découvrir le monde et faire des trucs comme ça, les parcs d'attractions, enfin, des trucs à sensation, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours été cet exemple de copine qui veut pas être casée, veut pas de trucs routiniers, donc qui dépense pour faire des trucs. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas juste. Elle m'a dit, c'est pour ça que je pense que tu te prends si mal, c'est parce que c'est pas juste. T'as tout fait pour être indépendante et pour avoir la liberté que tu prônes à tout le monde. Et en fait, là, on te coupe tout. Donc c'est pas juste de pas avoir de sous, c'est que d'un coup t'as plus ta liberté, quoi, t'es enfermé dans une cage.
Et donc le clash arrive.
Ouais. Bah du coup là.
T'es fébrile quand le clash arrive. Bah... T'es plus en très bonne forme apparemment.
Oui non, ça va plus du tout. Mais par contre j'ai tellement la haine que je pourrais rien lâcher contre eux, quoi. Tellement j'étais énervée. Enfin vraiment, j'avais pas beaucoup d'énergie, mais tout orienté là-dedans, qui n'est pas forcément bon parce que du coup ça me détruise encore plus, je pense. Mais du coup, j'essaye d'entamer des procédures judiciaires, faire des prud'hommes, des trucs comme ça. Donc, on contacte une avocate avec les autres collègues pour faire une mise en demeure. Parce qu'on n'avait toujours pas fait une mise en demeure, hein, depuis, alors que...
Je ne sais pas trop ce que c'est, une mise en demeure.
En soi, ça n'engage en rien. C'est seulement un papier qui est envoyé de manière officielle en disant « Bonjour, vous devez tant à un tel. Merci de régulariser la situation dans les 8 jours. » Évidemment, ce qui n'a pas été fait. Mais ce n'est pas une attaque personnelle. Enfin, ce n'est pas un truc grave, quoi. C'est une mise en demeure. On peut mettre en demeure un peu n'importe qui par rapport à... enfin, ce qu'on nous doit, ou des prestations, de services, des trucs comme ça. Mais donc, ils répondent pas à ça.
Attends, juste, il y a eu une explication, il y a eu une réunion, il y a eu un clash frontal physique avec les gens.
Oui, ils ont fini par nous faire une réunion en nous disant que du coup, bah, il n'y avait pas d'argent et qu'il fallait juste attendre que ça arrive, ils ne savaient pas.
Toujours pareil.
Et on leur a dit, bah, on va attendre combien de temps jusqu'à ce que vous fassiez un dépôt de bilan ou des choses comme ça. Non, mais nous, on croit au projet, donc on est désolé, mais on croit au projet, donc on ne lâchera pas. Et on a dit, bah, licenciez-nous, est-ce qu'on peut avoir des licenciements économiques? Non, ça coûte trop cher. Donc en fait, c'était soit on faisait une démission ou une rupture conventionnelle sans récupérer de solde de tout compte, soit on restait dans la boîte.
C'était beaucoup le solde de tout compte pour toi? T'as compté?
Bah non, j'ai pas compté parce que je comptais pas partir. Parce que j'avais trop peur de pas récupérer l'argent une fois, parce qu'ils donnaient les papiers de solde de tout compte, mais les gens ne recevaient pas l'argent. Enfin, il y a eu le cas. Il y en a plein qui l'ont fait. Celui qui avait l'enfant, il a eu son solde de tout compte en papier disant qu'ils leur doivent tant pour que lui puisse aller au chômage, mais il a rien touché. Donc moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, si je romps les liens avec eux, peut-être que j'aurai jamais tout cet argent. Donc
les 3 mois de salaire ou les 4 mois de salaire, et ça continue.
Et la prime, soi-disant, qui nous ont fait miroiter, parce que sinon, on n'aurait pas travaillé autant aussi. Hein. Donc, j'ai pas décidé de partir, moi. J'ai décidé d'attendre... je sais même pas si je l'ai décidé ou si j'avais pas de force pour voir ce que je pouvais faire de mieux. Enfin, je sais pas.
Tu t'es pas fixé de limite? Tu t'es pas dit, j'attends tant de temps ou...
Non, parce que... Par exemple, j'avais quand même dans ma tête le truc que j'ai toujours voulu être en freelance plus tard et tout ça. Et donc, je me suis dit que j'allais me mettre en freelance dès maintenant, puisque j'ai pas de contrat d'exclusivité avec eux. Donc, je pouvais très bien travailler à côté. Sauf que trouver du freelance comme ça, c'est compliqué.
Surtout quand t'es épuisée.
Oui, c'est ça. Bah, j'avais pas la force, en fait. Et j'ai même essayé de travailler en tant que serveuse dans un petit bar au Black, quoi. Et j'ai fait 2 jours. Et au bout de 2 jours, je me suis effondrée en larmes pendant le service, parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as fait autant d'études, t'as fait autant de sacrifices, et t'es là comme une conne à servir des gens que t'as pas envie de voir, parce qu'en plus, ça, j'ai croisé des gens que j'avais pas envie de voir, donc je me suis dit, super, ils vont croire que je suis une naze. Enfin, non pas que serveuse est un métier naze, mais en ayant dit tout ce que j'ai dit, en ayant toutes les aspirations du monde que j'avais, et tout ce que j'ai toujours dit à tout le monde, que je voulais réussir et tout ça, me retrouver là, à leur foutre le café dans la tronche, c'était horrible. Du coup, j'ai fait 2 jours et j'ai même pas tenu. En plus de ça, de toute façon, c'était du travail... Enfin, c'était illégal, quoi, de travailler au Black comme ça. Donc, je savais que j'allais pas le faire longtemps. C'était pour essayer de survivre, quoi.
Là, tu te retrouves dans une situation quand même qui est très compliquée financièrement, quoi. Comment tu fais pour survivre ? On est en juin, là, c'est ça ?
Ouais, là, on est en gros, moi, j'ai réussi à tenir jusqu'à juin à peu près, parce que du coup, avec...
Cinq mois sans salaire.
Ouais, avec les 2000 euros que j'avais de côté pour mes impôts et... Du coup, le crédit de ma moto que j'avais pris de 10 000 euros, j'avais pris large. Donc, j'ai me resté des sous de mon crédit. Heureusement, j'ai fait un crédit de 10 000 euros pour la moto. J'ai acheté la moto 7 000. Donc, il me restait 3 000. Donc, en gros, avec le plus du crédit et mes sous de côté, bah, il me restait 5 000 euros. Donc, j'ai tenu 5 mois. Donc, j'ai appelé mon banquier pour lui demander d'ouvrir mon découvert, que je n'ai plus de frais, des trucs comme ça. Il m'a juste demandé, enfin, il m'a plus donné de limite de découvert. Il m'a juste demandé de repasser dans le positif au moins une fois par mois pendant 24 heures. Donc, c'est ce que je faisais. J'essayais, je me foutais à moins 1500, et puis après je demandais à mon père, vite, donne-moi 1500 pendant 24 heures, après je lui re-rendais, juste pour être positif, jusqu'au moment où mon père il m'a dit, bah garde-les, enfin au bout d'un moment, ça sert à rien que tu me les rendes, parce que c'est pas possible. Je me suis retrouvée avec beaucoup d'amis à moi, qui m'ont proposé de l'argent, même des parents, le père de ma meilleure amie, qui m'a proposé aussi de me prêter 2000 euros, enfin vraiment des amis en or.
T'as accepté ?
Non, parce que je suis pas comme... Enfin, c'est pas que je suis pas comme ça, mais j'ai toujours voulu m'en sortir toute seule pour tout. Même quand j'étais à Paris, je te disais, je travaillais de fou. La nuit, je dormais pas, je ratais mes partiels à moitié parce que je dormais dessus, parce que je voulais pas demander de l'argent à mon père. Alors maintenant, demander à 27 ans de l'argent à mes amis, genre non. Du coup, j'ai craqué, j'ai demandé de l'argent à mon père, mais pas à mes amis. Je garde encore un peu de...
Bah, c'est exactement ce que tu voulais pas faire, cela dit. Hein. Ouais. Tu voulais pas demander d'argent à tes parents et finalement...
C'est ce que je voulais pas faire, mais bon, au bout d'un moment...
Est-ce que c'était si dur, finalement ? Est-ce que c'était pas moins dur que tu l'imaginais ?
Bah, c'était pas dur... Enfin, c'était pas dur dans le sens où ils sont là pour moi et on a toujours eu des bons rapports avec mes parents et tout ça, donc c'était pas dur de leur demander. Je savais qu'ils pouvaient à ce moment-là. Mais psychologiquement, c'était trop dur. Genre, j'aurais jamais voulu que ça arrive.
Ils t'ont filé combien ?
En tout, là, je leur dois 5 000 euros.
Tu leur dois parce que tu penses que tu veux leur rembourser.
Oui.
Alors, est-ce que c'est pas à peu près à cette époque-là, cet été, que tu as mis ce post sur LinkedIn que j'ai vu,
ouais,
qui était incroyable, où tu racontais que tu n'étais pas payé depuis février,
ouais,
par la start-up Schtroumpf.
C'est ça.
Et que tu étais dans une situation complètement bloquée, impossible, que tu allais essayer de te battre et de retrouver un peu de la force pour faire du freelance. Un poste qui a eu un succès dingue d'ailleurs, non ?
Ouais. Bah en fait, donc c'était à ce moment-là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc depuis tous ces mois-là, j'étais vraiment pas bien. Et ma meilleure copine me trouve une mission de freelance pour un site internet. Donc en gros, ça m'oblige à retravailler d'un coup. Alors que ça fait 6 mois que, enfin 7 mois que je travaille plus et que j'ai pas la force du tout. Mais je me dis yes, je vais. Enfin, ça commence en fait. C'est trop bien. Et la première semaine, je galère de fou à me mettre à travailler, en fait. Je me rends compte que c'est pas si simple quand psychologiquement ça va pas, de faire semblant, même si c'est pour un site internet, c'est très dur. Donc je galère. Et au bout d'une semaine, je me fous de baffe et je me dis, mais en fait, bouge-toi là, t'as une chance trop bien, oblige-toi. Donc je m'oblige, je vais voir mon client et j'essaye d'avoir beaucoup de contacts avec lui, de pas rester trop enfermé chez moi, justement, pour pouvoir, pour me sortir de ça, en fait. Et au bout de 2 semaines où je travaille avec lui, 3 semaines, mes amis et même mes parents ils me disent « Oh, t'as trop changé, genre d'un coup, on dirait que ça va mieux, quoi. » Alors que j'avais même pas forcément touché de l'argent encore, hein, pas du tout. Mais juste, je m'étais remis dans un rythme où je m'étais réimposé un réveil, par exemple, le matin pour faire des trucs, alors qu'avant, je me laissais moitié mourir dans mon canapé. Et donc, en fait, ça m'a remotivée. Et c'est là où je me suis dit « Mais pourquoi j'utilise pas les réseaux sociaux, enfin, ou le LinkedIn ?» Parce que je pourrais parler de ça, en fait. J'ai pas voulu en parler forcément en me disant je vais trouver du travail ou quoi, mais je me disais juste comment c'est possible que je me suis laissée aller autant au point où je me reconnaissais même plus moi. Enfin, je me regardais dans le miroir, je me disais je suis là, j'ai perdu 10 kilos, j'ai plus la même tronche, j'ai envie de pleurer tout le temps. Et là, d'un coup, j'arrivais à ressourire, à me rehabiller bien pour aller faire mes petits entretiens et tout. Et je m'en suis voulu de fou en me disant mais c'est pas possible de devenir un DG pareil là.
T'as eu beaucoup de retours sur le post LinkedIn?
Ouais, alors du coup, il a fait presque 300 000 impressions, je crois. Donc, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu déjà.
300 000 ?
Ouais, c'est énorme. Il y a 3 000 likes, pas mal de commentaires, de repartages, mais ça fait 300 000 impressions. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 personnes qui l'ont lu, même s'ils n'ont pas interagi avec, quoi. C'est énorme. C'est vraiment... jamais de la vie, j'aurais pensé un truc pareil. Mais bon, visiblement.
Et est-ce que tu crois pas que c'est peut-être justement cette franchise quant au fait que tu t'es retrouvé dans une situation où t'étais pas payé par ta boîte ?
Ouais.
Est-ce que t'as pas eu plein de gens qui t'ont contacté pour te dire « Ah, ça m'est arrivé aussi !»
Exactement. J'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient « Bah, moi, c'est exactement la même chose. Moi, ça a duré 2 mois. Moi, ça a duré 3 mois. » Après, il y a eu aussi plein de gens qui disaient « Mais c'est pas possible. Comment on continue à travailler ? Comment... Enfin, c'est impossible ce que vous dites. Pourquoi vous êtes resté à travailler pendant 3 mois ? C'est complètement faux. Vous voulez juste faire du buzz sur LinkedIn et faire pleurer dans les chaumières. » Je me disais « Oui, d'accord. Allez. Si seulement. » Et après, j'ai eu pas mal de contacts, du coup, pour travailler.
Enfin, ah ouais, ça a marché.
On m'a donné quelques missions, ouais. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts d'un coup, plein d'entretiens. Je faisais des visios tout le temps, mais c'était très éphémère, quoi. C'est-à-dire que le mois qui a suivi, donc en août, avec le post LinkedIn, en gros, j'ai fait 3000 euros de chiffre d'affaires en un mois. J'ai pris 3000 euros en faisant des missions et tout. Trop bien! Je me dis « Yes, j'ai lancé le truc, je sais pas comment j'ai fait, mais yes, j'ai réussi. » Donc, je suis remotivée un max. Et j'ai plein de gens qui me disent « Mais en septembre, on se recontacte, mais on fait ci, on fait ça, j'envoie des devis partout. » Et au bout d'un moment, j'ai plus de réponse. Et là, en septembre, par exemple, j'ai eu 0. Donc, ouais, c'était très éphémère.
Ça a fait un petit one-shot sympa qui t'a un peu renfloué, qui t'a redonné la patate.
Ouais,
mais
ouais. Heureusement, parce que mon père ne pouvait plus payer mon loyer à partir de août. Il m'a dit « Là, j'ai donné trop, je peux plus, donc démerde-toi. » Donc, ouf, ça m'a sauvé un mois de plus.
Là, maintenant, c'est le moment de la bataille juridique, un peu en parallèle.
C'est ça. Bah, en gros, depuis juin, j'avais commencé, moi, une démarche au prud'homme. Le problème étant que pour aller au prud'homme, ils te donnent une date d'audience à laquelle tu es convoqué et les patrons sont convoqués. Et en fait, les patrons ne vont jamais chercher les lettres que j'envoie, enfin, de convocation, en fait, qui sont envoyées par le tribunal. Donc, ils ne viennent pas. Donc, quand on arrive à l'audience, l'audience est reportée. Donc, elle a été déjà reportée 2 fois maintenant, parce qu'ils ne sont toujours pas allés chercher les papiers. Et pour, en gros, que par exemple, le fait qu'ils n'aillent pas chercher le papier montre qu'ils sont en tort, parce que c'est possible de prouver qu'ils ne vont pas chercher le papier parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ça, c'est possible, mais uniquement si tu envoies ce papier par un huissier. Et ça coûte 200 balles. Alors que normalement, c'est gratuit, un prud'homme. Mais comment tu veux que je paye 200 balles quand ça fait 8 mois que je bouffe des noodles 60 centimes? Donc non.
Vous n'avez pas fait d'action collective avec les autres salariés de la boîte ?
On a essayé, on a voulu le faire avec une avocate, sauf qu'elle nous prenait 2000 euros chacun.
Chacun ?
Oui, non mais c'était, je pense qu'elle avait fumé celle-là, mais elle nous prenait 2000 euros chacun, donc non, on ne l'a pas fait. Nos cas sont tellement différents, il y a beaucoup d'alternants dans la boîte, donc il y a beaucoup de gens qui devaient se battre aussi pour réussir à garder leur diplôme et tout ça, parce qu'ils allaient se faire virer de leur école, à plus avoir d'alternance. Quand c'est comme ça, c'est différent, donc c'est même pas encore la même chose que moi. Moi, par exemple, j'avais un statut de cadre, on n'était pas beaucoup, donc on ne peut pas faire les mêmes demandes que ceux qui sont salariés, je ne sais plus comment on dit, quand tu n'es pas cadre, mais bref. Donc du coup, c'est quand même du cas par cas. Donc, et il y en a plein aussi qui, dès qu'on n'a pas été payé, par exemple, se sont mis en maladie. Comme ça, ils ont été payés par l'État, quoi.
Par la Sécu.
Par la Sécu. De toute façon, c'est même les patrons qui ont dit, d'ailleurs, si vous ne pouvez pas attendre, mettez-vous en maladie, quoi. Petite arnaque à la Sécu, sympa.
En parallèle, tu m'as dit que cette entreprise avait été un peu affichée par les médias.
Oui, oui. Alors nous, c'est grâce à nous, d'une certaine manière, enfin je dis nous, c'est donc tous les anciens employés, on a contacté un collectif sur Instagram qui s'appelle Balance ta Startup. Donc c'est une fille de mon entreprise qui connaissait ce compte Insta et qui les a contactés en disant « Voilà ce qui se passe dans notre startup, on aimerait bien que vous en parliez parce qu'ils ont 180 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal ». Fait une belle voix. Et du coup, elle a expliqué l'histoire. Et donc, du coup, on se dit, ça fait un...
Un bad buzz.
Ouais, c'est ça. On pensait faire ça. Donc, cette fille les contacte. Et elle envoie un message pour expliquer et tout. Et eux, ils demandent plus de témoignages. Parce qu'en fait, ils vont pas descendre une boîte sous le prétexte qu'une personne. Voilà. Donc, tout le monde commence à s'y mettre, à envoyer des messages pour expliquer la situation. Donc, Balance ta startup fait un premier post où ils screenent en gros tous les témoignages et ils les mettent en ligne. Et là, d'un coup, ça fait un déferlement de malade, en fait. Personne n'a encore entendu parler de l'histoire de Schtroumpf. Et du coup, même moi, j'ai pas encore fait mon post à ce moment-là, donc c'est bien avant. Et on voit des gens qui mentionnent nos patrons et notre boîte en disant « Regardez ce qui se passe sur Balance ta startup et tout ça. » Et donc, d'un coup, ça commence à faire un buzz sur LinkedIn, alors que nous-mêmes, on n'a rien dit nulle part, à part à Balance ta startup de manière anonyme. Moi, j'y avais pas participé encore à cette première vague, on va dire, qu'il y a eu sur Balance ta startup. Et quelques temps après, on voit Nice Matin, donc le journal local, qui fait un article à ce propos. Puis un autre, un journal spécialisé dans la tech, je sais plus le nom, mais qui est sur Paris. Et en fait, beaucoup de monde commence à en parler. Et du coup, beaucoup de monde aussi commence à aller trouver les réseaux de nos patrons pour un peu les insulter ou leur foutre la pression en mode ben, « au moins libérez-les, enfin, faites votre dépôt de bilan, quoi. Faut arrêter ça. » Et du coup... Là, on rentre en conflit complètement avec eux, parce que du coup, même eux qui nous donnaient quand même des nouvelles en disant « Bon, bah, on fera peut-être le dépôt de bilan le mois d'après » ou de temps en temps, on avait 2-3 nouvelles. Là, d'un coup, on n'a plus rien. Et par exemple, moi, je me suis rendue dans les locaux pour récupérer des affaires à moi et je me suis retrouvée entre quatre yeux avec eux. Et elle m'a dit « Mais tu te rends compte ce qui se passe sur les réseaux? Vous vous rendez pas compte? On va vous attaquer. » Enfin, qui nous faisait des grosses menaces, quoi. Parce que du coup, on avait fait un bad buzz sur leur dos.
Ouais, là, c'est, on n'est plus du tout... Il n'y a plus de famille, là.
Ah ouais, non, là,
il y a de la haine.
Ouais, c'est ça. Là, il y a une très, très grosse haine. Au final, quand on a vu qu'il y en avait un qui l'avait fait, on n'avait plus peur. En fait, au début, on avait l'impression qu'on était tout le temps tout seul et que personne ne pouvait nous comprendre, si tu veux. Et dès qu'il y a eu un journal qui a mis les mots sur nous, ce qu'on avait, et ben d'un coup, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on a attendu autant de temps?
Avec le nombre de retours que tu as eu sur ce post LinkedIn que tu as fait, qui a eu 300 000 vues, est-ce que tu as eu l'impression que c'était une situation peut-être plus courante qu'on ne l'imagine, la situation que tu as traversée?
Oui, visiblement, c'était très courant. C'était très courant, mais de ce, quand même, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en général, ils saisissent les prud'hommes bien plus vite que nous. On a bien trop attendu. Il y en a qui s'énervent bien plus vite. Mais j'ai même eu, par exemple, des retours des avocats qui m'ont donné des conseils, tu vois. Donc, ils n'ont pas pris en charge mon dossier du tout, mais ils m'ont donné des conseils. Bah, tu devrais plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça. Donc, c'était quand même assez bienveillant. Mais ouais, il y avait beaucoup de monde qui a vécu ça. Hein. De ce que j'ai vu, il y avait énormément de commentaires dans ce sens.
Et là, tes perspectives, c'est quoi alors maintenant?
Là, maintenant, j'essaye de développer mon entreprise dans mon coin, en fait.
En freelance manière.
Ouais, en freelance. J'essaie vraiment de trouver des missions.
Donc, t'es encore un peu très, 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 très just, d'après ce que je comprends.
Ah oui, ça, je suis très just encore pour l'instant. Mais là, ils sont enfin en liquidation judiciaire, donc on devrait pouvoir peut-être toucher quelque chose. Je ne saurais pas dire encore combien ni quand, mais ça devrait peut-être m'aider à continuer, enfin, à lancer vraiment ma boîte. Mais oui, pour l'instant, en tout cas, j'ai plus du tout envie de faire confiance à quelqu'un et j'ai pas du tout envie d'être salarié nulle part.
Est-ce qu'à un moment, t'as pensé à vendre ta moto?
Ouais. Mais j'ai même. Ouais. Mais même mon appartement et tout, même si c'est pas à moi, jamais de la vie j'aurais voulu rentrer chez mes parents. Mais je me disais, je prends un truc plus petit. Mais en même temps, je me disais, comment je vais faire pour faire un dossier, pour avoir un autre appartement plus petit? Parce que même si je prenais un appartement avec 200 balles de charge en moins, j'aurais jamais pu louer avec des fiches de paye, enfin avec pas de fiches de paye, quoi, avec zéro, sans argent. Donc j'ai vendu plein de fringues, par exemple. Je faisais sur Vinted, je vendais plein d'habits. Je faisais des trucs comme ça, quoi.
Et là, maintenant, la situation financière. Alors, donc, là, nous sommes au mois d'octobre, au début du mois d'octobre, ouais. 2023. Tu peux finir le mois?
Là, je suis à moins 1002 sur mon compte et je ne sais pas comment je vais payer mon... En fait, j'ai espoir que le chômage se déclenche vite ce mois-ci pour que je puisse payer mon loyer et tout, parce que là, je ne peux rien faire. Et en plus j'ai les impôts.
Et voilà, j'allais dire, en plus, tu as les impôts.
En plus, j'ai 300 balles d'impôts tous les mois. Et d'ailleurs, les impôts, hein, petit big up, je les déteste. Parce que j'ai envoyé un mail quand j'ai reçu mon échelonnage d'impôts. J'ai reçu 4 mois mon échelonnement. Je les contacte en disant « Voilà ma situation, j'ai pas eu un centime depuis 8 mois. Je leur ai envoyé mon dossier des prud'hommes avec la date des prud'hommes. Donc là, mon dernier prud'homme sera fin octobre. Normalement, il devrait pas être repoussé celui-là. Je leur donne toutes les infos et je leur demande est-ce qu'on peut échelonner sur plus de mois, parce que 300 euros par mois, c'est impossible dans ma situation, ou est-ce qu'on peut décaler le premier prélèvement au mois d'après, étant donné que mon prud'homme se passe en octobre, je devrais avoir l'argent après, donc à partir de novembre ou décembre. Ma seule réponse que j'ai eue, alors que j'ai fait un dossier de 80 pages pour tout leur expliquer, c'est « Je vous invite à vous organiser. » Donc ils n'ont rien changé. ils s'en foutent complet. C'est horrible. Bah déjà de base, avant même cette expérience, je savais que je voulais pas être salariée toute ma vie, puisque je m'étais dit, je fais 5 ans et puis après je serai en freelance. Mais alors là, je ferai même pas 5 ans, j'ai fait 2 ans, c'est bon, c'est fini, je veux plus jamais. Je préfère faire, déjà pour mon épanouissement personnel, je veux plus que quelqu'un décide pour moi, quoi, c'est pas possible. Et je veux plus être lobotomisée comme ça, à croire sans comprendre ce qui se passe derrière, quoi.
On peut toujours ne pas être payé en freelance.
Oui, on peut toujours ne pas être payé en freelance. Mais je me dirais que, dans tous les cas, là, maintenant, en freelance, mes revenus seront plus d'une seule personne. C'est un peu ma sécurité, quoi.
Tu me disais que t'avais eu plein de missions cet été, et puis plus du tout de missions en septembre.
Ouais.
T'as pas peur de la précarité que ça peut induire d'être freelance ?
Si, mais je me dis que je serais tellement heureuse de réussir dans ce milieu-là, et en même temps... Il faut que j'arrive après moi à gérer aussi l'argent et arrêter de vouloir inviter tout le monde tout le temps. Il faut que le mois où j'ai de l'argent, je garde pour le mois d'après et que j'arrête de...
Ça, c'est vachement intéressant. Tu t'es quand même rendu compte à l'occasion de cette expérience que même si tu n'invitais pas les gens, non seulement ils étaient toujours là apparemment.
Ouais, c'est vrai.
Et en plus, ils proposaient même de te dépanner ou de te payer des trucs.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. Mais non, mais j'ai eu de la chance d'être... J'ai perdu aucun ami. Alors que je... Enfin, même si j'estimais... tous les gens qui sont proches de moi, mais je pensais pas que j'allais être aussi bien entourée. Enfin, même des copains qui venaient me faire à manger à la maison ou des trucs comme ça parce que ils savaient que ça allait pas, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais oui, maintenant, je me dis... je pense que je serai toujours très généreuse parce que j'ai encore envie de faire des choses avec eux. Et maintenant, en plus, je me sens redevable envers eux parce que je sais qu'ils l'ont fait de bon cœur. Mais par exemple, j'ai fait aucun cadeau d'anniversaire cette année à personne. Et du coup, je me dis, dès que j'aurai des sous, je vais leur acheter un petit truc quand même pour les remercier de tout ça. Et parce que j'étais pas là pour l'anniversaire, ou moi, genre, tu vois, des trucs bêtes. Mais je ferai plus attention à mon argent, mais je vais quand même essayer de remercier ceux qui ont été là pour moi.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thunes. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.